Pardon de vous déranger, je fais un reportage sur les produits bio. Je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une micro-ferme ?
Logiquement, une petite ferme diversifiée et puis assez polyvalente dans sa production.
Non, je sais pas ce que c'est.
Donc, c'est une ferme. Petite.
Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une ferme urbaine ou quelque chose dans ce style-là.
Ouais, non, ça peut être grand, ça dépend.
Après, pleine ferme, milieu de Genève, ça, je sais pas. Est-ce que être au milieu de la ville pour des produits bio, c'est vraiment bon ? Ça reste une question.
C'est une ferme de moins d'un hectare, en fait, qui est vraiment petite, avec une petite structure.
Bah, c'est une toute petite ferme, non ? Micro, quoi.
Bien vu.
Le verre dans l'assiette.
Un podcast d'enquête immersive auprès des acteurs du bio, par Rachel Richterich. Cinquième épisode, carotte citadine.
Elles sont comme d'irréductibles vestiges d'une époque où la campagne dominait, comme d'imbétonnables îlots de verdure, postés là, au milieu de barres d'immeubles qui semblent prêtes à les dévorer de leurs dents vitrées. Foisonnantes et fécondes, les fermes urbaines portent en elles ce germe de la résistance à l'origine des grandes révolutions. Ces exploitations agricoles sont situées en plein cœur des villes ou dans les alentours proches, et elles fonctionnent généralement sur le modèle des micro-fermes. Mais c'est quoi au juste une micro-ferme et comment ça fonctionne? Et est-ce que ces fermes représentent un vrai modèle d'avenir? Ou est-ce que c'est juste le rêve un peu idéaliste de quelques illuminés? Bonjour. Je teste juste le matériel là.
Ah voilà, je sais pas si je le casse.
Ça fonctionne, c'est vachement solide. J'ai rencontré la spécialiste de la question, Hélène Bougouin. Elle est ingénieure agronome à l'Institut de recherche de l'agriculture biologique, qu'on abrège FIBEL. Elle s'occupe notamment de la recherche sur les systèmes de production alternatifs, au sens vraiment de différent du modèle dominant. Alterno quoi. Bon, déjà, si la recherche s'y intéresse, c'est qu'il y a un truc.
Salle des moissons, salle des semailles, salle des labours.
On va à la salle des labours.
Ah, super. On ose encore labourer ?
Pas toujours.
Ah ouais.
Je commence par lui demander ce qu'est une micro-ferme. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas juste une petite ferme.
En Suisse, il y a des toutes petites exploitations agricoles classiques, notamment, je pense, dans le milieu viticole. On va avoir quelques parcelles de vignes de petite taille, et puis c'est pas forcément une micro-ferme parce qu'il n'y a pas forcément cette attention à la diversité des activités, à la diversité à l'intérieur des cultures.
Je comprends que la diversité est l'une des caractéristiques majeures d'une micro-ferme. Diversité des cultures qu'on va habilement associer entre elles pour tirer le meilleur parti de la petite surface. Par exemple, le fenouil qu'on va planter au pied des cardons parce qu'il se récolte à un autre moment. Diversité des variétés cultivées aussi. Certaines sont plus précoces, d'autres plus tardives. Et ça, ça prolonge la disponibilité. Mais aussi diversité des activités, avec des cours et des ateliers autour de la production. Ça, c'est pour le volet pédagogique, qui est récurrent aussi dans ces structures. Et c'est cette diversité qui les fait vivre et qui fait qu'elles peuvent être rentables. Parce que les subventions de la Confédération, elles ne les reçoivent pas.
Souvent, les micro-fermes ratent une partie du soutien étatique, notamment des paiements directs. Pour plusieurs raisons. La question de la surface. En schématisant, les paiements directs dépendent quand même beaucoup de la surface de la ferme. Donc, dès qu'on fait plus petit, on est pénalisé. Enfin, on touche moins. Et puis, il y a aussi des structures qui sont alors carrément trop petites pour toucher des paiements directs, alors qu'elles ont un niveau de production qui est pourtant équivalent à certaines fermes un peu plus grandes.
Correspondance 3, 14, 18.
Mais moi j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Du coup je me rends à la ferme de Budet, un site emblématique des fermes urbaines. Elle est nichée en plein cœur de Genève à 10 minutes de la gare.
Prochain arrêt, Petit Saconnet.
Alors là je suis en chemin pour la ferme de Budet. C'est drôle quoi, on a ces immeubles, vraiment on est au cœur de la ville. On entend l'école, le préau juste à côté. C'est la poussette de la dame qui grince. Mais mince, j'ai encore un problème technique. Mais non, faut huiler les roues. Bon, là, on est quand même dans un parc, donc ça met un petit peu d'ambiance. On en a de la peine à croire qu'il y ait une ferme ici, en fait, une vraie ferme. Voilà, puis là, ça ressemble à une ferme. Ouais, c'est fou, quoi. Avec la grande porte arrondie en bois. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Léo. On a dit que je vais faire un petit tour du marché quand même, raconter un peu ce qu'il y a.
En tout cas, c'est hyper coloré. Il y a une grande variété de produits. Il y a des fromages, la viande, la ferme du Sapalais à Rossignères. Je parle un peu toute seule. En fait, je parle au micro.
Bonjour,
vous êtes Léo ?
Ouais, voilà.
Oh, enchanté. Bonjour.
J'y rencontre Léo Toulauf, qui a repris l'exploitation maraîchère en 2009 avec ses associés.
C'est assez particulier. Donc, on est vraiment entouré de barres d'immeubles très citadins. Et puis, il y a cet îlot de verdure, en fait, avec des cultures. Donc, j'ai lu, c'est un demi-hectare de surface agricole.
Ouais, alors ça, c'est que vraiment, si on calcule que la surface qu'on cultive, après, on loue à peu près un hectare. Ça, c'est un peu le reliquat de ce qui restait de la ferme à l'époque. Hein. Elle a 300 ans, cette ferme. Et puis, l'urbanisation des années 60 a mangé l'essentiel de ces terrains. Mais il en est resté quand même une petite partie qu'on a continué à cultiver. Et puis, bah, c'est ce qu'on a sous les yeux.
Et ce qu'on a sous les yeux, devant le corps de ferme, ce sont quelques bandes maraîchères, un tunnel construit en 2016 grâce à des donations, un motoculteur qui passe pas très loin. C'est assez sobre, en fait.
Micro-ferme, ça veut dire que vous allez peu investir dans l'outil de production, ça va être petit, mais vu que vous avez peu d'équipement et puis que vous allez pouvoir intensifier et vous concentrer sur des cultures peut-être rentables, à haute valeur ajoutée, et puis une succession de cultures très rapide, parce que vous avez une très bonne maîtrise, vu que c'est une petite surface, avec peut-être un débouché, type un restaurateur, des paniers ou un magasin, ben, vous allez pouvoir hautement valoriser votre production. Donc, peu de surface ne veut pas forcément dire peu de rentabilité.
Le point de vente direct ou semi-direct, c'est un autre critère très caractéristique des micro-fermes. Elles se placent vraiment en alternative au modèle agricole dominant, y compris en termes de débouchés. Donc la grande distribution, très peu pour elles.
Par contre, il y a quelque chose économiquement de très intéressant par rapport à une ferme qui est isolée en campagne, c'est que nous, on a vraiment les acheteurs, les consommateurs qui sont à nos portes, quoi. Et du coup, le fait qu'on puisse vendre et puis revendre les produits aussi d'autres confrères qui sont justement plus loin, on va dire que ça rééquilibre un petit peu le fait qu'on ait peu de surface, du coup, pas de subvention.
Ok, donc c'est rentable. Même si, évidemment, l'agriculture, c'est jamais le secteur dans lequel on se lance pour faire du blé. Et il y a plein de facteurs à ça, dont un qui fait bien enrager Léo Toulauf.
Bon, sur le sujet économique, si vous me lancez, vous n'allez pas pouvoir me rattraper parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous voulez me lancer ?
Un petit coup.
Quand je vois les pubs, on ne va pas les citer, mais pour les grands distributeurs, c'est souvent le gentil fermier avec sa fourche dans le champ, la poule qui gambade à l'air, etc. Alors que la réalité, elle est tout autre, quoi, aussi. Là, c'est la disparition de milliers d'exploitations chaque année, c'est la concentration et l'industrialisation, et puis tout ce mouvement-là, il vient, je dirais, de plein de facteurs différents. Mais l'un d'entre eux, et c'est là où j'aimerais mettre le doigt, c'est quand même qu'on désinvestit ce que devrait coûter la nourriture. On ne veut pas payer le prix juste.
Voilà, c'est ça qu'il dénonce. C'est qu'on ne veut plus mettre le prix pour la nourriture et pour tout ce que ça implique de produire, que ce soit en termes de travail, mais aussi de ressources. Et là, il s'alarme.
Bah en fait, si on n'investit pas dans la nourriture, en fait, on pousse tout le secteur à mal travailler, à s'industrialiser. Et puis, on le sait, en agriculture, l'industrialisation, elle n'est pas bénéfique pour plein de choses. Bien sûr, pas tout est mauvais dans l'industrialisation, mais je dirais quand même que quand on imagine des champs à perte de vue d'une seule et même culture, ben oui, il y a une chute drastique de la biodiversité, et oui, ça va avoir des graves conséquences sur l'humanité dans son avenir si tout commence à être cultivé de cette manière-là. Mais même en bio. Et je veux dire, on ne pourra pas fabriquer des salades comme on fabrique des voitures, quoi. Il y a un moment donné, on travaille avec du vivant, et puis le vivant, il a besoin de diversité, d'équilibre. On est dans des biotopes où il y a des équilibres, il faut les trouver et il faut travailler avec. Un agriculteur bio, il devrait bosser avec son écosystème. Et il devrait essayer de travailler en le respectant, en l'utilisant, en essayant d'être le plus en équilibre avec. Et puis, je dirais, les prix bas, c'est tout le contraire que ça amène, même en bio.
Ah, on sent l'âme engagée, un esprit militant. Bon, mais alors la micro-ferme, c'est le modèle d'avenir? C'est ce vers quoi doivent tendre tous les producteurs? Pas si simple. Là encore, la clé, c'est la diversité pour Hélène Bougouin.
Effectivement, ces modèles, on va dire, de micro-fermes portent un bon nombre d'innovations qui sont intéressantes pour l'agriculture biologique. Mais je trouve délicat d'identifier le futur de l'agriculture biologique à ce qui se fait dans les micro-fermes. Pour une fois, je vais jouer l'argument de la taille. mais parce que il y a quand même une question de surface et d'utilisation du sol qui doit rester encore plus diversifié que ce qui se fait dans les micro-fermes. En fait, la plupart des micro-fermes, bien que étant des entreprises indépendantes, utilisent des intrants. Pas chimiques, mais il y a des choses qui sont apportées sur la micro-ferme pour la faire fonctionner. Je pense par exemple à du compost qui est utilisé comme engrais ou du fumier. Et ça, sont des produits qui sont produits par un surplus d'activité et de matière organique qui est créé sur d'autres entreprises agricoles. Pour moi, il y a une diversité de modèles qui doivent fonctionner ensemble pour permettre un futur agricole idéal, équilibré, bénéfique, régénérateur, etc., etc.
Les micro-fermes font leurs preuves, la chercheuse le souligne. Elles sont difficiles à dénombrer en l'absence de typologie précise, mais on sait qu'elles foisonnent. Elles ouvrent une piste et offrent un aperçu de ce qui pourrait mener à un changement. Pour l'instant, elles incarnent une alternative, un potentiel. Et les fermes urbaines rappellent aux citadins que ce potentiel existe. C'est un aspect essentiel pour Léo Tsoulov.
On est un peu une fenêtre sur le monde agricole, sur un bout de campagne en ville, etc. Et puis, ben, pour en faire profiter au maximum les gens qui nous entourent, on a assez vite vu qu'il avait un gros potentiel. Les écoles venaient même toquer à notre porte pour savoir si on voulait faire des visites, etc. Donc un fort potentiel pédagogique. On le voit aussi à travers quotidiennement, les clients qui nous posent des questions, qui veulent en savoir plus, qui veulent comprendre ce qu'il y a derrière les choses qu'on vend. Le fait de venir faire visiter des classes, leur amener la possibilité de visiter le jardin, de toucher un peu la terre, de voir comment les choses poussent, etc., c'était dans l'ordre des choses par rapport à ce qu'on faisait ici.
Et ouais, c'est ça. On n'entend presque plus la route avoisinante. Un avion de temps en temps nous rappelle qu'on est là, les deux pieds dans la terre, à regarder pousser des carottes au beau milieu de la ville.